Très bon début de journée avec Europe 1. Il est 8h.
C'est l'horreur. C'est l'horreur. La pluie, l'eau, les gens conduisent n'importe comment parce qu'ils sont énervés, je pense. Ouais, c'est hyper stressant. Ça a l'air de la peur de faire le trajet. Hein.
Des routes surchargées, 600 km de bouchons cumulés en Île-de-France et 250 de plus que d'habitude, un lundi déjà harassant en voiture et dans les transports en commun.
C'est le pire jour depuis le début de la contestation contre la réforme. La réforme des retraites, bien sûr, les détails des perturbations en début de journal, perturbations qui vont se poursuivre demain et probablement mercredi, d'après la SNCF.
Et puis, qui remportera le bras de fer ? Syndicat ou gouvernement ? Chacun joue gros, c'est l'heure des tout derniers arbitrages avant les annonces de l'exécutif mercredi.
Sur ce sujet, votre invité à 8h15, Sonia.
Le commissaire européen Thierry Breton, Bruxelles, surveille de très près la mise en œuvre de la réforme des retraites, véritable test de la capacité réformatrice ou pas d'Emmanuel Macron.
Sur la scène européenne, justement, un grand plan d'action pour lutter contre le changement climatique, le Green Deal. La présidente de la commission, Ursula von der Leyen, veut une Europe pionnière.
Si nous sommes les premiers en Europe qui développent les technologies pour sauver ce planète, nous allons avoir une forte base industrielle pour l'avenir.
S'inspirer des fourmis, oui, pour se déplacer et éviter les bouchons sur les routes, c'est très sérieux et ça peut être très utile en ce moment.
Elles ont un but commun. Nous, quand on va au travail, on a chacun une destination, un but individuel. Et donc c'est vrai qu'on a sûrement moins de raisons de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'embouteillage sur les routes.
Eh bien, voilà de quoi méditer pour ceux qui sont dans les bouchons. Plus de 600 km, vous l'avez dit. Bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal, Mathieu Béliard, Sonia Mabrouk. Cinquième jour de grève contre le projet de réforme des retraites et d'ores et déjà, c'est la cohue tant redoutée dans les transports avec des quais bondés. Alors si beaucoup de gens s'étaient organisés jeudi et vendredi dernier, le retour au travail s'annonce pénible aujourd'hui.
15 à 20% des trains en circulation, un TGV sur 5, un Transilien sur 5, 3 TER sur 10. Et si vous avez pris votre voiture, il faudra vous armer de patience en raison des routes surchargées. Au dernier comptage, on est à plus de 611 km de bouchons cumulés en ce moment en Île-de-France. C'est plus de 250 de plus qu'habituellement.
Bonjour François Geffrier, vous êtes à Motto entre l'autoroute A4 et le périphérique parisien, non loin de la porte de Bercy. Comment ça roule là où vous êtes ?
Eh bien, j'ai devant moi et autour de moi des centaines de voitures, soit à l'arrêt, soit à vitesse escargot. C'est très compliqué. Il y a des gens qui prennent sûrement la voiture assez rarement. On a vu quelqu'un tenter une marche arrière sur une voie d'accès au périphérique. Avec la pluie, il y a des flaques énormes, des petites mares sous certains tunnels routiers. Même les habitués de la route sont surpris.
C'est l'horreur. C'est l'horreur. La pluie, l'eau, les gens conduisent n'importe comment parce qu'ils sont énervés, je pense.
Là, ça klaxonne pas mal en plus.
Ouais, c'est hyper stressant. C'est, ça a l'air de la peur de faire le trajet. Hein.
C'est le bordel, même en bécane. J'ai mis 20 minutes de plus par rapport à d'habitude. Il y a beaucoup de flotte.
Extrêmement difficile, beaucoup de voitures dans tous les sens, plus la pluie. Il faut être super prudent en tout cas, ça c'est sûr.
Par rapport à d'habitude, aujourd'hui c'est incroyable.
Alors c'est très compliqué, si vous êtes sur l'A1 vers Paris en direction de Paris, sur l'A3 dans les deux sens, sur l'A6 aussi malgré la voie, vous savez la voie de bus qui est autorisée au covoiturage aujourd'hui. Avec le technicien motard d'Europe 1, Jimmy Nicolas, nous avons vu les panneaux lumineux avec des temps de parcours qui s'allongeaient au fur et à mesure qu'on se rapprochait, ce qui n'est jamais bon signe. Visiblement le marasme automobile n'est pas encore malheureusement à son maximum.
François Geffrier sur les routes d'Île-de-France, tout près de Paris d'ailleurs au moment où nous nous parlons pour Europe 1.
Et avec de telles conditions de circulation, le travail, en particulier des ambulanciers, s'annonce compliqué. La gestion du temps est évidemment essentielle pour des patients en situation souvent d'urgence.
Bonjour Véronique Bloco.
Bonjour.
Vous êtes la directrice de Jussieu Secours France, un réseau national de services d'ambulance qui couvre une bonne partie de la région parisienne. Quel est l'impact concret de cette grève sur le transport des patients ?
Il y a déjà un impact en termes d'organisation, c'est-à-dire que bien sûr, quand les grèves sont prévues et qu'on sait qu'elles vont être très importantes, on anticipe. Donc c'est quoi anticiper ? C'est anticiper les horaires de prise de garde de nos ambulanciers. Là, par exemple, ce matin, on avait une assistance pour Orly. En temps normal, on les aurait fait partir à 7h30, ils sont partis une heure plus tôt. Et je sais qu'ils sont arrivés. C'est aussi permettre le covoiturage de nos salariés pour faire des binômes qui vont commencer à la même heure. C'est anticiper éventuellement le carburant. C'est aussi contacter les établissements hospitaliers pour jauger la volumétrie qui peut baisser ou qui peut augmenter et renforcer le nombre d'équipes pour avoir beaucoup plus de souplesse sur le planning. Donc, le but de cette anticipation, c'est effectivement d'éviter que les patients qui sont quand même au cœur de notre métier puissent être pénalisés par ces grèves.
Bien sûr. Alors, Véronique Bloco, vous dites anticipation, mais pour combien de temps, c'est la question, vous arrivez à anticiper ces jours-ci ? Est-ce que ça peut durer ?
Alors, ça peut durer. C'est compliqué parce que, bien évidemment, nos ambulanciers ne peuvent pas venir tous les jours très tôt. Donc, ça peut être compliqué. Je pense que sur une semaine, c'est-à-dire que, moi, j'anticipe un peu au-delà même de ce qui est dit jusqu'à la fin de la semaine. Je pense qu'encore pendant une semaine, c'est possible. C'est sûr que des greffes comme ça, quand elles deviennent deux semaines, trois semaines, ça devient très, très compliqué. Et puis, c'est compliqué aussi pour les patients. Faut pas oublier qui savent qu'ils vont prendre une ambulance, qui savent que une ambulance, même si elle peut à un moment donné être en urgence et donc demander, solliciter la priorité pour pouvoir avancer plus vite dans les embouteillages, c'est quand même très anxiogène pour nos patients. Donc il faut prendre ça aussi en ligne de compte. C'est pour ça qu'on anticipe effectivement nos prises de garde et qu'on fait venir nos ambulanciers plus tôt.
Merci Véronique Bloco, directrice de Jussieu Secours France. Merci d'avoir répondu en direct dans le journal de 8h ce matin sur Europe 1.
Et pendant ce temps, le bras de fer se poursuit entre syndicats et gouvernement. La semaine est vraiment décisive. Point d'orgue mercredi, le Premier ministre présentera toute l'architecture du projet de réforme des retraites.
À Édouard Philippe les annonces et à Jean-Paul Delevoye les réunions et les préconisations. Le monsieur retraite du gouvernement, comme on l'appelle, reçoit pour la dernière fois les syndicats cet après-midi. Il est au centre de toutes les attentions, Olivier Samin.
La concertation jusqu'au bout. Vendredi matin encore, Jean-Paul Delevoye recevait le MEDEF. Cet après-midi, ce sera un peu la cérémonie de clôture de ce travail de bénédictin mené depuis un peu plus de deux ans avec toutes les parties prenantes sans exception. Travail salué y compris par les adversaires de la réforme. Philippe Martinez notamment qui, dans les colonnes du JDD, reconnaît à Jean-Paul Delevoye une vraie conception du dialogue social. En compagnie d'Agnès Buzyn tout à l'heure, le monsieur réforme des retraites du gouvernement va plancher devant l'ensemble des partenaires sociaux pour présenter les conclusions auxquelles il est parvenu. Conclusions, mais pas préconisations. Les rôles ont été cadrés. Pas question de s'avancer sur ce terrain alors qu'Édouard Philippe va dévoiler le contenu de la réforme 48 heures plus tard. Jean-Paul Delevoye va se contenter de faire l'état des lieux des points qui font consensus et des points de divergence qui sont apparus au cours de la dernière séquence de concertation.
Olivier Samin du service économie d'Europe 1, et voilà qui tombe mal. Jean-Paul Delevoye n'a pas mentionné dans sa déclaration d'intérêt ses fonctions d'administrateur de l'Institut de formation de la profession de l'assurance. Un oubli, assure l'intéressé dans Le Parisien ce matin.
On parle bien sûr beaucoup de la réforme des retraites en France, mais comment cette réforme et notre pays sont-ils perçus en ce moment sur la scène européenne? Votre invité à ce sujet, Sonia, à 8h15.
Thierry Breton, le nouveau commissaire européen. En effet, il est beaucoup question de la France et de la réforme des retraites à Bruxelles. Que dit tour de notre pays en pleine contestation sociale? Réponse en quelques minutes avec Thierry Breton.
Le commissaire européen au marché intérieur nous parlera également du Green Deal, le pacte vert en français. C'est le grand plan d'action européen pour lutter contre le changement climatique.
Il sera dévoilé en pleine COP25 ce mercredi à Bruxelles. Isabelle Horry, c'est un changement profond qui pourrait être annoncé.
Oui, le Green Deal, c'est un plan pour changer le monde que nous connaissons, résume un expert. Ce plan, ce seront d'abord des chiffres, diminuer les émissions de CO2 de 50 à 55% d'ici 10 ans. Aujourd'hui, l'objectif, c'est seulement 40%. Et puis, viser la neutralité carbone en 2050. Pour y arriver, il faut verdir les politiques européennes, des transports à l'énergie, en passant par l'agriculture et même l'investissement ou la finance. Un programme gigantesque. Bruxelles envisage aussi une taxe carbone aux frontières pour éviter la concurrence déloyale de voisins moins vertueux. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, espère convaincre les citoyens européens.
Je crois que beaucoup de gens vont accepter de changer un peu. Et deuxièmement, si nous sommes les premiers en Europe qui développent les technologies pour sauver cette planète, nous allons avoir une forte base industrielle pour l'avenir parce que nous allons être les exporteurs de ces technologies qui sont nécessaires.
Mais Bruxelles a bien conscience que la transition écologique fait peur. La première mesure qui sera bientôt détaillée, c'est donc le fonds pour la transition juste, au moins 100 milliards d'euros pour rendre le Green Deal socialement acceptable.
Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles.
Justice à présent avec un membre de la famille Assad. Le procès de Rifat al-Assad pour Bien Malaki s'ouvre ce lundi à Paris. L'oncle de Bachar al-Assad, 82 ans, sera absent des audiences pour raisons médicales. Mais pour de nombreux Syriens, c'est déjà un premier pas contre l'impunité.
Bonjour Vincent Hervouet.
Bonjour.
Ces supposés biens mal acquis, quels sont-ils ?
Alors, l'inventaire de la police française, un hôtel particulier avenue Foch, la piscine est vaste, un autre dans le 16e, une soixantaine d'appartements, des bureaux à Lyon, un château dans le Val d'Oise donné par son beau-frère, le roi d'Arabie Saoudite, total 800 millions d'euros. L'inventaire de la police espagnole, 500 propriétés. En Suisse, l'enquête a tourné court. En Grande-Bretagne, elle n'a jamais commencé, bien que Rifat ait le plus grand palais du royaume, juste après Buckingham. C'est Kader Roussel à la mode syrienne. Rifat el-Assad n'a jamais fait les choses à moitié. 4 épouses, 16 enfants et une centaine de sociétés offshore. Les islamistes ont fait sa réputation. Le bourreau de Palmyre, le boucher de Hama. Il a noyé dans le sang et le gaz sarin la révolte des frères musulmans. C'était en 82. Et le régime estime y avoir gagné 30 ans de répit.
Et il s'est brouillé aussi avec toute sa famille.
Alors la France lui a ouvert les bras. François Mitterrand lui a remis la Légion d'honneur. Pourquoi mystère ? Le triangle d'or parisien appartient aux dirigeants du Golfe, aux affairistes africains, aux oligarques, aux généraux algériens. Rifat s'étonne d'être le seul à qui on demande des comptes. Il dit « Prenez tout et qu'on en finisse. Avec les Assad, la France n'en aura jamais fini. Hafez el-Assad nous a tué un ambassadeur. Bachar el-Assad a gagné la guerre que nous lui avions déclarée. Rifat el-Assad est coupable, forcément coupable. Si ce n'est lui, c'est donc son frère ou bien son neveu. »
Et son procès dès aujourd'hui. Le regard international de Vincent Hervat, c'est tous les jours dans le journal de 8h.
Dans quelques secondes, la suite du journal de 8h. On va refaire un point sur cette journée de perturbation. Europe 1 vous accompagne, on embarque avec vous au milieu des embouteillages. À tout de suite.
8h13 sur Europe 1, la suite du journal. Mathieu Béliard, Sonia Mabrouk. Et l'on vous parle bien sûr de vos conditions de transport qui sont de plus en plus compliquées. Les bouchons en particulier s'accumulent sur les routes. Plus de 600 km de bouchons en Ile-de-France.
Théo Manval, vous êtes à bord d'un VTC non loin de Paris, en plein milieu des embouteillages, Théo Manval.
Oui, parce que c'est la seule solution hein, pour beaucoup, le VTC pour aller travailler ce matin. Je suis avec Sid Ahmed, notre chauffeur depuis 6 heures. Ça s'est bien densifié depuis 7 heures du matin. Hein. Là, on est au sud de Paris, au Kremlin-Bicêtre. Tout est bouché.
Oui, effectivement. Heureusement que je connais Paris, le sud, le nord, n'importe quel endroit. Et
parce que là, il faut prendre les itinéraires alternatifs.
Alternatifs, c'est bien ça, mais les GPS ont l'habitude de nous donner les grands axes, même s'ils sont bouchés.
Donc là, on essaye de prendre un petit peu les chemins de traverse.
Voilà, les petites traverses, les petites ruelles adjacentes, etc., parallèles.
En tout cas, il n'y a pas de problème pour trouver des clients. Hein. L'application Captain, pour être tout à fait transparent, qui nous a permis d'embarquer aujourd'hui, sonne dès qu'on débarque quelqu'un. On a embarqué Lucia tout à l'heure, qui devait aller à l'aéroport pour le travail, et elle a dû s'y prendre vraiment très tôt.
Je prends 1h30 d'avance pour être sûr d'y arriver en temps et en heure.
Et est-ce qu'au niveau tarifaire, puisque c'est la grève, on sait que les prix ont tendance à augmenter, est-ce que vous savez s'il y a une majoration ?
Oui, il y a des majorations. C'est un trajet qui m'écoute 1,5 ou 2 fois plus que d'habitude. Mais là, moi, je fais partie des gens qui ont un peu de chance parce que c'est l'entreprise qui va payer le trajet pour aller à l'aéroport. Je souhaite bon courage à tout le monde, tous les gens qui partent travailler aujourd'hui.
Je vais vous ouvrir.
Merci.
Bon, ça va, du coup, vous êtes à l'heure ?
Oui, j'ai eu de la chance. J'espère juste qu'il n'y aura pas de problème avec mon vol.
C'est
la deuxième partie de l'aventure qui commence. Bonne journée,
bon courage. Bon courage à vous.
Au revoir, merci.
Voilà, et tout le monde n'a pas cette chance ce matin. On doit arriver à la porte Maillot, 15 km, et le compteur nous donne Sid Ahmed.
9h18.
Donc encore 1h04 dans les bouchons. À tout à l'heure, Mathieu.
Patience, Théo Manval, en direct et en plein dans les embouteillages pour Europe 1.
Vous l'aurez entendu, il y a donc les chemins de traverse, hein, c'est ce que l'on apprenait à l'instant. Et puis les fourmis.
Tiens
si
donc.
Les fourmis nous apprenaient à éviter les embouteillages, écoutez bien. Le mode de déplacement de millions de fourmis peut-il être un modèle de gestion routière applicable aux humains ?
Mathieu, la question est vraiment très sérieuse. Des chercheurs français et américains ont étudié la circulation de colonies de fourmis pendant leur récolte de nourriture. Leur efficacité pourrait nous servir d'exemple lors d'Autriche.
En laboratoire, 25 000 fourmis ont été placées sur une même route, avec des tronçons plus ou moins larges. Et là, surprise, les scientifiques ont été frappés par la sagesse des fourmis. Pas d'embouteillage, la circulation est fluide, détaille Laurane Poissonnier, chercheuse au Centre de cognition animale à Toulouse. Les fourmis, voyant que la route est pleine, attendent pour s'engager ou même rebroussent chemin. C'est l'expression d'une forme d'intelligence collective.
Elles vont attendre que le trafic soit un peu moins important. Avoir une utilisation de leur piste efficace, c'est très important pour elles parce que ça correspond au nombre, enfin à la quantité de nourriture qu'elles vont ramener au nid. En fait, elles ont un but commun. Nous, quand on va au travail, on a chacun une destination, un but individuel. Et donc c'est vrai qu'on a sûrement moins de raisons de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'embouteillage sur les routes.
Les chercheurs ont aussi observé que les fourmis sont stratèges. Lorsque le trafic est dense, elles adaptent leur vitesse mais n'accélèrent pas pour ne pas risquer d'entrer en collision avec d'autres fourmis, ce qui leur ferait perdre du temps. Et au final, elles parviennent à récupérer leur nourriture avec la même rapidité.
De l'éloge de la circulation chez les fourmis avec l'or d'Autriche pour Europe 1.
8h16, votre invité politique Sonia.
Et si on sortait de nos frontières hexagonales pour voir comment la France est en pleine contestation sociale et perçue en Europe, notre invité est au cœur du système européen, Thierry Breton, le nouveau commissaire européen au marché intérieur en direct depuis Bruxelles. Bonjour Thierry Breton.
Bonjour Sonia Mabrouk.
A tout de suite sur Europe 1.